Qui et pourquoi ? À l'occasion du 40e anniversaire de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, beaucoup d'éditeurs, sans doute troublés par la multiplicité des hypothèses qui ont été émises, m'ont écrit. Ils voulaient connaître le point de vue de M. X sur cette affaire. Il y a plusieurs années, mon interlocuteur m'avait déjà entretenu de ce dossier et il m'avait donné sa version. Nous allons en reparler. Mais, je vous rassure tout de suite, il n'a pas changé d'avis. Toutefois, il m'a proposé, afin de satisfaire la curiosité de ses auditeurs, de rappeler les faits, de passer en revue toutes les thèses, de les éplucher et de me rappeler ce qu'il me disait déjà en 1997. Quelques chiffres auparavant. L'assassinat de Kennedy, 35e président des États-Unis, n'a cessé de fasciner le monde entier, même si l'image de ce jeune et charismatique président américain, qui n'a régné qu'un peu plus de 1000 jours, a été depuis sérieusement écornée. On a calculé que 1000 livres ont déjà été écrits sur cette affaire. 1000 livres et presque autant d'hypothèses. Et ce n'est certainement pas fini. Le dernier en date, paru en France, accuse même le clan Bush d'avoir été mêlé au meurtre de Kennedy. Autre chiffre, les Américains, dans leur immense majorité, ont toujours l'impression que les autorités, les différents départements de police et les services secrets leur ont menti et que leur président a été victime d'une conspiration. Et aujourd'hui, à Dallas, il existe même, à proximité du lieu de l'attentat, un musée de la conspiration.
Ben, voyons d'abord les faits, mais uniquement les faits. Ils sont déjà suffisamment troublants en eux-mêmes. Donc, ce 22 novembre 1963, en fin de matinée, JFK atterrit à Dallas. Et c'est un voyage à haut risque.
Mais rappelez-moi pour quelle raison hein.
Ben, les Texans ont beau avoir souvent voté démocrate, ils ne sont guère favorables à Kennedy. Et ils ont de nombreux motifs pour cela. Bon, je résume brièvement. Premièrement, ces sudistes sont des conservateurs, et même des ultra-conservateurs. Kennedy, qui est un Yankee progressiste et catholique, partisan de la mixité raciale, est donc considéré comme une sorte de communiste. Et j'exagère à peine.
Pourtant, JFK a toujours affiché des convictions anticommunistes. Hein. Je pense à son voyage de Berlin, ou encore à son attitude très ferme pendant la crise des fusées.
Oui, vous avez raison, mais ça ne suffit pas aux Texans. Ils n'ont pas oublié la désastreuse affaire de la baie des cochons.
Ouais, la tentative d'invasion de Cuba.
Hein. Oui, et pour eux, comme pour tous les anticastristes qui sont nombreux dans le sud des États-Unis, si cette opération a raté, c'est à cause de Kennedy qui n'a pas eu le courage d'appuyer militairement les envahisseurs. Enfin, si vous voulez bien, on en reparlera. Hein. Car Cuba est directement ou indirectement au centre de l'affaire. En outre, les milieux industriels texans sont furieux après Kennedy.
Oui, c'est sa politique fiscale. Hein,
c'est ça, oui. Le président a décidé de taxer les pétroliers. Ça passe très mal. La veille de l'arrivée de Kennedy à Dallas, les journaux ont publié de pleines pages de publicité violemment hostile à JFK. Mmh. Et une organisation d'extrême droite a même distribué en ville des tracts avec, au-dessous de la photo du président, la mention « recherché pour trahison ».
Au fait, pourquoi vient-il à Dallas hein?
Ben, la campagne électorale présidentielle.
Pourtant, l'élection n'aura lieu qu'en 1964.
Oui, c'est vrai, mais aux États-Unis, la campagne se prépare très longtemps en avance.
Il n'y a pas qu'aux États-Unis. En France, il existe aussi des candidats potentiels qui y pensent plusieurs années avant l'échéance, hein, et pas seulement 3 ans.
Oui, c'est vrai, mais enfin, passons. Kennedy se rend donc à Dallas pour essayer de convaincre les électeurs texans, car c'est un État qui pèse très lourd, près du 20e du collège des grands électeurs. Pour autant, Kennedy ne manque pas d'atouts. Le gouverneur, John Connally, est démocrate. Et puis surtout son vice-président, Lyndon Baines Johnson, est non seulement démocrate, mais texan.
Ouais, mais on a toujours dit qu'entre Kennedy et Johnson, c'était pas l'amour fou. Hein.
C'est vrai, mais enfin, il faut se rappeler que les deux hommes avaient été rivaux lors de la convention démocrate de 1960. Mmh. Kennedy l'avait remporté. C'est sans doute à contre-cœur qu'il l'a choisi comme vice-président.
Ouais. Et oui, puis en plus, il fallait séduire les Texans.
Non, en tout cas, il se dit dans l'entourage présidentiel que les deux hommes ne feront pas équipe ensemble lors des prochaines élections.
Oui, Johnson et Kennedy. Ouais,
ce qui ne plaît pas trop à Johnson. Alors, venons-en au fait.
Ouais.
À l'aéroport de Dallas, les époux Kennedy prennent place dans une voiture découverte en compagnie du gouverneur et de sa femme.
Ah, on a tous en mémoire hein, l'image de cette longue automobile. Mmh. Mais oui, au fait, pourquoi une voiture découverte?
C'est Kennedy qui en a dessiné ainsi. Il veut être vu par les Texans. Et c'est lui aussi, toujours dans ce but, qui a exigé que la voiture roule lentement dans la rue de Dallas.
Alors, les agents chargés de sa sécurité ont accepté alors même que ce voyage était à haut risque, comme vous l'avez dit vous-même.
Eh bien oui, et je suis d'accord avec vous, c'est étrange. Autre étrangeté, et c'est un euphémisme, il apparaît que sur le parcours emprunté par le cortège présidentiel, il se trouve bien peu de forces de l'ordre. Pire encore, il semble que l'on ait négligé de repérer tous les endroits d'où on aurait pu tirer sur le président. Contrairement à l'habitude, il n'y avait pas de policiers sur les toits. et l'unité spéciale chargée d'assurer la sécurité du président n'avait pas fait le déplacement.
Négligence
J'ai du mal à y croire. C'est bien que le Secret Service est d'ordinaire très vigilant, et même envahissant. Or là, à Dallas, manifestement, les services de sécurité ont fait le minimum.
Ouais, mais il y avait quand même des policiers,
non ? Oui, en tête du cortège. On trouvait des motards, puis une voiture à bord de laquelle se trouvait le shérif du comté, le chef de la police locale. Juste derrière, roulait la voiture présidentielle conduite par un agent du Secret Service. Et à côté de lui, un second agent avait pris place. La décapotable précédait un autre véhicule avec 8 policiers. Après, il y avait l'automobile du président Johnson et encore une quinzaine de voitures.
Mmh. Et vous trouvez alors, si je vous comprends bien, ce dispositif minimum suspect?
Évidemment. Mais encore une fois, dans un premier temps, bornons-nous à l'examen des faits. Mmh. Il est donc 12h30 quand le cortège s'engage dans Elm Street et traverse un vaste espace gazonné. Les voitures doivent ensuite rejoindre une rocade qui conduit directement à la chambre de commerce où Kennedy doit déjeuner et prononcer un discours.
Mmh. Et c'est là, là, sur cet espace gazonné, enfin, en traversant cet espace, qu'on va tirer sur le président?
Oui, à un endroit qui s'appelle Dealey Plaza. Il y a 3-4 coups de feu, Kennedy est touché à 2 reprises, la deuxième balle lui emporte une partie du crâne.
Ouais, aucune chance de s'en sortir.
Non. Et son chauffeur, après quelques secondes d'hébétude, a beau rouler à toute allure vers l'hôpital, il est évident que la blessure à la tête est tellement impressionnante que le président ne pourra pas être sauvé. Je dois ajouter que le gouverneur Connelly a aussi été touché, enfin moins grièvement.
Ouais. Bon, et sur les lieux de l'attentat, alors, que se passe-t-il?
Bah, les coups de feu ont été tirés alors que le cortège venait de passer devant un immeuble en briques, un dépôt de livres scolaires. Et immédiatement, les hommes chargés de la sécurité pensent que le ou les tireurs étaient dissimulés dans ce bâtiment isolé. D'autant qu'un témoin affirme avoir vu une silhouette à l'une des fenêtres du 5e étage. Une silhouette tenant quelque chose qui ressemblait à une barre de fer.
Ouais, c'était en fait le canon d'une carabine. Hein. Mais d'autres témoins n'ont-ils pas affirmé que les coups de feu auraient pu être tirés devant la voiture et non pas derrière?
C'est juste, oui, et ça alimentera la thèse de la deuxième équipe. Effectivement, il y avait là sur la pelouse une barrière derrière laquelle un tueur aurait pu se cacher. Il existait aussi un talus qui aurait pu servir à dissimuler le tireur. Et on procédera d'ailleurs à quelques interpellations parmi les spectateurs qui guettaient le cortège présidentiel, mais sans résultat. En fait, c'est le dépôt scolaire qui intéresse en priorité les policiers.
Mmh. Une question, pardon. Est-ce que l'itinéraire du cortège avait été rendu public?
Bien sûr. Et toujours pour la même raison, Kennedy voulait être vu par le maximum de gens. Ouais.
Donc le ou les tireurs avaient pu organiser leur affaire assez tranquillement.
C'est exact. Enfin, je reprends. Les policiers se précipitent donc dans ce dépôt de livres scolaires. Au rez-de-chaussée, un jeune homme est en train de boire une boisson gazeuse qu'il vient d'extraire d'un distributeur automatique. C'est un employé. Très curieusement, alors que les policiers vont naturellement boucler tous les accès du bâtiment, ils laissent sortir cet homme.
Oui, c'est Lee Harvey Oswald.
Bien sûr.
Et là encore, c'est de la négligence ou la volonté manifeste de ne pas retenir Oswald?
À votre avis? Oswald sera le seul à pouvoir quitter le bâtiment, alors que 15 autres employés y seront retenus pour être entendus par la police. On ne peut donc s'empêcher de penser qu'on a sciemment permis à Oswald de sortir. Au même moment, des policiers montent dans les étages, et au 5e étage, conformément aux témoignages recueillis plus tôt, on découvre près d'une fenêtre à demi ouverte une carabine à lunettes et 3 douilles.
Mais alors, c'est l'arme du crime?
Bah, ça paraît évident. Et on commence à questionner le personnel. C'est là que les policiers, en compulsant la liste des employés, semblent découvrir que l'un de ceux-ci a disparu. On communique donc son nom et son signalement à toutes les voitures de police de la ville. La suite est assez étonnante.
On va la raconter.
Bah, ça se passe quelques minutes plus tard, vers 1h15, dans un autre quartier de Dallas. Selon la version officielle, un agent de police qui fait sa ronde en voiture, un certain Tippit, voit sur le trottoir un homme dont le signalement correspond à celui de Sully Harvey Oswald. Il descend aussitôt de son auto.
Ah, pourquoi? Il veut l'interpeller?
Et d'abord s'enquérir de son identité.
Attendez, si ce Tippit soupçonne cet homme d'être l'assassin de Kennedy, n'est-ce pas dangereux d'agir seul, ou il aurait pu se contenter au fond de suivre le type et d'appeler du renfort?
Oui, c'est aussi ce que je pense, mais enfin, l'agent Tippit agit donc seul. Et il engage la conversation avec l'homme qui se révéla être effectivement Oswald. Et soudain, des coups de revolver sont tirés. Et Tippit s'écroule mortellement touché, tandis qu'Oswald s'enfuit. Des témoins le verront plus tard entrer dans un cinéma, c'est là qu'on l'arrêtera après une courte bagarre.
Alors ça, c'est pour vous la version officielle?
Et pour la police de Dallas, il ne fait aucun doute qu'Oswald a tué l'agent Tippit. Or, une analyse de ses mains, afin de rechercher des traces de poudre, se révélera être négative. Par contre, on aurait retrouvé de la poudre sur sa joue droite.
Oui, c'est-à-dire là où il aurait calé sa carabine lorsqu'il a tiré sur Kennedy.
Oui. Mais cette expertise ne sera pas vraiment concluante. Et comme dans cette affaire, il régnera une confusion permanente, je ne voudrais pas m'avancer.
Voilà. Alors, bon, quand même, selon vous, que s'est-il réellement passé avec l'agent Tippit?
Écoutez, je ne sais pas avec certitude, mais j'ai quand même une petite idée. Et je peux d'ores et déjà vous dire que ce policier de Dallas ne se trouvait pas là par hasard.
L'agent Tippit n'était pas là par hasard, a dit M. X. Et nous allons voir ce qu'il veut dire par là. Auparavant, je voudrais vous faire part d'un étonnant témoignage que j'ai trouvé dans la revue Historia, qui a publié au mois de décembre 2003 un excellent dossier sur l'assassinat de JFK. Il s'agit d'une déclaration de la tenancière du meublé qu'Oswald louait dans ce quartier où a été abattu Tippit. Mrs. Irlene Roberts déclare que ce 22 novembre, Oswald est rentré chez lui à 13h. Pendant qu'il se trouve à l'intérieur, elle aperçoit une voiture de police qui s'arrête devant sa maison. L'un des policiers klaxonne à deux reprises. Un signal ? Nul ne le sait. L'enquête n'a pas produit de preuves qu'un tel véhicule était dans ce secteur à cette heure. Un quart d'heure plus tard, une autre femme, Mrs. Aquila Clemens, assiste au meurtre de l'agent Tippit. Elle dit à plusieurs enquêteurs indépendants qu'elle a vu deux hommes près de la voiture du policier avant que l'un d'eux n'ouvre le feu sur lui. Le meurtrier a fait un signe à son complice et ils sont partis en courant dans des directions différentes. Mrs. Clemens n'a pas été entendue par la commission. Son témoignage a pourtant quelques consistances puisque les balles retirées du corps de Tippit proviennent de deux manufactures différentes.
Alors, commentez votre expression là. L'agent Tippit n'était pas là par hasard.
Volontiers. En fait, je pense qu'il avait rendez-vous avec Oswald.
Rendez-vous, mais dans quel but?
Le tuer.
Le tuer? Et pourquoi?
Pour qu'il ne parle pas, ça me semble clair.
Alors, donc selon vous, pour qu'il ne révèle rien du complot auquel il aurait participé, c'est ça?
C'est ça, c'est la vérité.
Je veux bien encore que... Il faut alors m'expliquer ce qu'il s'est passé réellement entre Oswald et ce policier. Hein.
Écoutez, je vais essayer. Et comme d'habitude, à mon avis, il n'y a que deux hypothèses.
Je vous écoute parce que tout ça me paraît bizarre.
Hein. Et comme je vous comprends. Alors, première hypothèse, quand il voit Oswald, Tippit sort son arme. Il y a bagarre et Oswald réussit à retourner le revolver contre son agresseur et il tire.
Oui, ça c'est plausible. Hein. Et alors, la deuxième hypothèse,
Tippit, dans sa voiture de patrouille, n'est pas seul.
Ce qui est d'ailleurs l'usage aux États-Unis.
Tout à fait. Là-bas, les policiers vont généralement par deux. Mm-hmm. Donc, Tippit, le premier, se dirige vers Oswald, pointe son revolver sur lui pour le tuer, conformément au scénario qui a été établi par les comploteurs. C'est-à-dire une arrestation qui tourne mal. Mais Tippit hésite.
Ouais. La peur ?
Peut-être. Tuer un homme de sang-froid n'est pas évident. Alors, comme dans la première version, Oswald se défend et retourne l'arme vers Tippit. Il tire. Ou bien encore, le deuxième policier intervient et supprime son collègue qui a fait preuve d'indécision et devient maintenant un témoin gênant.
C'est pas un peu tiré par les cheveux, tout ça, là ?
Non, car vous le verrez, dans cette affaire, on n'hésitera jamais à supprimer des témoins.
Donc, d'après vous, le scénario dont vous m'avez parlé, hein, prévoyait la mort d'Oswald aussitôt après l'attentat qui avait coûté la vie au président Kennedy.
Mais ça, j'en suis convaincu. Comprenez-moi bien. Oswald était le pigeon idéal. Pour les gens qui avaient conçu toute l'opération, Oswald devait apparaître comme le seul coupable. Tout avait été préparé en ce sens. Et prestement assassiné, on était sûr qu'il ne pourrait pas parler. Mais il y a eu cette bévue. Et c'est pourquoi deux jours plus tard, un certain Ruby viendra tuer Oswald dans les locaux même de la police. Enfin, n'allons pas trop vite. Ouais.
Un pigeon, dites-vous, hein, c'est votre expression. Mm-hmm. Bah, c'est peut-être le moment d'évoquer un peu la personnalité de ce Lee Harvey Oswald.
Oui, vous avez raison. Alors je vais m'y efforcer. Et autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas évident tant la brève existence de cet homme est mystérieuse.
Mm-hmm. Attends, il a quel âge là, lorsqu'il est assassiné?
24 ans. Mm-hmm. Mais on a l'impression qu'il a déjà vécu plusieurs vies.
C'est-à-dire?
Écoutez, son enfance d'abord, naguère était heureuse. Son père est mort très tôt, sa mère s'est remariée, puis elle a divorcé. Instable, elle a fréquemment déménagé. L'éducation du jeune Lee Harvey s'en est forcément ressentie. Et il n'a même pas 17 ans lorsqu'il s'engage dans les Marines.
C'est une vocation,
ça? Ça, je l'ignore. Enfin, vraisemblablement, s'il s'est engagé, c'est qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. En tout cas, il est envoyé au Japon dans une unité de radaristes. Il apprend aussi le maniement des armes. Mais il ne sera jamais un tireur d'élite.
Ça, c'est important.
Et en effet, parce que l'homme qui a tué le président Kennedy était obligatoirement un excellent tireur. Autre chose. À deux reprises, Oswald est passé devant le tribunal militaire.
Pourquoi ?
De brutis, enfin quand même. Enfin, ce Marines tranche sur ses camarades, d'abord parce qu'il dit beaucoup.
Quel genre d'ouvrage ?
Des livres sur le marxisme.
Ça ne doit pas être très bien vu,
non,
ça.
Non, d'autant qu'il s'en vante. Il apprend aussi le russe et affiche aussi son admiration pour l'URSS.
Ouais, un drôle de marine.
Effectivement, ouais. Oui. Alors, quand il demande à être démobilisé, on lui accorde sa liberté sans discussion.
Et que fait-il ensuite ?
Il revient aux États-Unis, fréquente les milieux anticastristes, puis se rend en Europe et obtient un visa touristique pour l'URSS. Et arrivé là-bas, faisant état de ses convictions marxistes, il demande sa naturalisation.
Bizarre, il fréquente les milieux anticastristes et puis il demande un visa pour l'URSS. Et les soviétiques, la lui accordent ?
Non, ils acceptent qu'il travaille chez eux.
Dans quel domaine ?
Bon, je crois qu'il est engagé dans une usine qui fabrique des appareils de radio. Enfin, au bout d'un an, il en a assez, il se présente à l'ambassade américaine. Il veut retourner aux États-Unis. Entre-temps, il a rencontré une jeune fille, Marina. Il l'épouse et lui fait un enfant. Et c'est avec sa femme et sa fille qu'il revient en Amérique.
Mais parce que les autorités soviétiques acceptent de le laisser partir avec Marina, là ?
Oui, et vous avez raison de souligner ce point. À l'époque, il était exceptionnel que Moscou autorise une femme mariée à un étranger de quitter le territoire soviétique. Enfin, poursuivons. Le couple s'installe au Texas. Toutefois, rapidement, la mésentente s'installe entre les deux époux et Oswald, sans son épouse, part pour la Nouvelle-Orléans.
Et Marina, alors ?
Bah, seule, parlant à peine l'anglais, elle trouve refuge chez une amie près de Dallas. C'est là que Lee Harvey Oswald vient la voir de temps en temps.
Tout ça est très chaotique, non ?
Oui, je suis d'accord.
Et que fait Oswald, là, son retour ?
Ça, c'est très mystérieux. Il a retrouvé très discrètement ses anciens amis anticastristes. Mais en même temps, on le découvre à la Nouvelle-Orléans en train de distribuer des tracts pro.
Il faut m'expliquer.
Volontiers. En fait, depuis son engagement dans les Marines, le jeune homme a été pris en main par la CIA.
Voilà, pris en main. Et comment pouvez-vous, vous, en être aussi certain ?
Bah, la base où il a servi au Japon était entièrement contrôlée par l'agence américaine. Et c'est sur ordre qu'il a appris le russe.
Donc, son séjour là en URSS était une sorte de mission d'infiltration ?
Je le pense, oui. Mais elle n'a sans doute pas été couronnée de succès. Et c'est pourquoi il est revenu aux États-Unis.
Et le fait qu'il ait obtenu l'autorisation d'emmener son épouse soviétique ?
Mais il y a toujours de petits arrangements entre amis et même entre ennemis. Les Américains ont dû faire pression sur Moscou.
Ouais. Mais pendant son séjour là-bas, les Soviétiques auraient pu être tentés de le retourner.
Et ils ont probablement essayé de le faire. Mais au fond, les gens de la CIA qui manipulaient Oswald s'en moquaient.
Ça devient de plus en plus compliqué.
Non, je vous explique. L'essentiel, c'était de construire de toutes pièces un personnage. Celui d'un type un peu fêlé, affichant des idées révolutionnaires et manifestant en toute occasion sa sympathie pour Fidel Castro. Un homme marié à une soviétique et qui a séjourné en URSS. En pleine guerre froide, je vous le rappelle.
Je viens, enfin, construire un personnage dans quel but ?
Bah, lui faire jouer le rôle de l'assassin de Kennedy.
Oui, un assassin communiste.
Exactement, vous commencez à comprendre.
J'ai trouvé une confirmation de la manipulation d'Oswald par des hommes liés à la CIA dans le gros livre de Serge Raffi consacré à Castro et publié chez Fayard. Je cite. En 1962, Lee Harvey Oswald rentre comme une fleur aux États-Unis. Il réapparaît chez lui à la Nouvelle-Orléans au mois de juin. Il est d'abord ausculté par la CIA durant 3 mois afin de vérifier que la taupe n'a pas été retournée par les Soviétiques. Visiblement, les services secrets américains sont convaincus que leur agent est resté sain. Son incroyable défection chez les Rouges est bien restée sous contrôle. Preuve de la confiance de la CIA à son endroit, le traître fait valider son passeport dans les 24 heures grâce à l'intervention d'un sénateur républicain du Texas, John G. Tower, ami d'un certain Harold Lafayette Hunt. C'est par ce nouvel ami, homme d'affaires dans le secteur pétrolier, mais surtout consultant de la CIA, qu'Oswald trouve un travail à Dallas. En octobre, le revenant dégote un emploi à la firme Jagger Stovall-Scheiss, entreprise spécialisée dans la fabrication de cartes et graphiques à usage militaire, dont le principal client n'est autre que le Pentagone.
Mais il faut encore peaufiner le portrait. Oswald dit à qui veut bien l'entendre qu'il compte se rendre à La Havane. Son rêve, c'est en effet de vivre à Cuba et de pouvoir serrer la main de Fidel Castro. Et fin septembre 63, c'est-à-dire un peu moins de 2 mois avant l'assassinat de Kennedy, Oswald part au Mexique où il va se livrer à une étrange gesticulation.
Gesticulation, c'est-à-dire ?
Bah, dès son arrivée à Mexico, il se précipite à l'ambassade du RSS.
Alors, quel est son but, là ?
Reçu par un diplomate, qui est bien sûr un homme du KGB, il demande à retourner en URSS. Mais auparavant, il veut séjourner à Cuba.
Et comment les soviétiques l'accueillent, là ?
Pas très bien. C'est que le personnage paraît bien agité, il est même armé. Et comme le diplomate refuse de lui donner satisfaction, il brandit son revolver.
Est-ce qu'il est entré dans l'ambassade soviétique avec une arme.
Oui, ça semble incroyable, n'est-ce pas? Alors évidemment, on le désarme.
Oui, on doit le prendre pour un fou.
C'est certain. Et on le déconduit, non sans lui rendre son arme. Mais Oswald insiste, et il se rend ensuite à l'ambassade de Cuba. Et là, il produit son ancien passeport, un document qui prouve qu'il a séjourné en URSS.
Qu'est-ce qu'il veut là, un visa?
Oui, mais les Cubains se méfient. Ils se renseignent auprès de leurs collègues soviétiques et lui refusent le visa. Toutefois, Oswald viendra encore deux ou trois fois chez les diplomates cubains.
On va.
Naturellement. Enfin, l'important n'est pas là. Ce qui compte, c'est qu'effectivement, Oswald soit allé dans les ambassades soviétiques et cubaines.
Et pourquoi?
Parce que non seulement sa présence n'est pas passée inaperçue, mais en outre, il a été à chaque fois photographié.
Par qui? Des hommes de la CIA?
Bien entendu. Tout ça faisait partie d'un scénario destiné à prouver que ce jeune homme, un peu désaxé, avait des sympathies pro-communistes.
Oui, ça permettra ensuite d'accuser Castro d'avoir fait assassiner Kennedy.
Exactement, oui, ça faisait partie du plan. Remarquez bien que ça aurait sans doute été encore mieux si Oswald avait vraiment été autorisé à séjourner à Cuba, ne serait-ce que quelques jours. Mais le simple fait d'avoir demandé un visa suffisait.
Alors vous excluez d'emblée l'hypothèse cubaine, hein, parce que Fidel Castro avait quand même de bonnes raisons d'en vouloir au président américain. Après tout, sous la présidence de Kennedy, on avait essayé d'attenter à sa vie. Hein.
Plusieurs reprises, c'est juste. Ouais. Oui. Je crois même qu'en cette année 1963, Castro, dénonçant ses tentatives d'assassinat, avait menacé de répliquer par l'appareil. Mais je ne pense pas que le leader Massimo ait sérieusement envisagé de s'en prendre physiquement à JFK. Et pour au moins deux raisons.
Je vous écoute.
D'abord, la catastrophe de la baie des cochons. Kennedy, qui y avait écorné son image. N'oubliez pas qu'il venait tout juste d'arriver au pouvoir. Et pensait à renouer avec Cuba progressivement. D'accord, mais il y pensait. L'autre raison qui excluait la responsabilité de Castro dans l'assassinat de Kennedy, c'était qu'il aurait été trop dangereux pour lui de s'en prendre au président américain.
Quoi, à cause d'éventuelles représailles?
Bien entendu, en faisant assassiner le président américain, le leader cubain aurait fourni un formidable prétexte aux Américains pour intervenir militairement à Cuba.
D'accord, mais pourtant vous m'avez précédemment dit que des gens de la CIA avaient tout fait pour compromettre Castro à travers Oswald, militant prétendument pro-castriste.
Et je ne retire rien de ce que j'ai dit, mais l'affaire a échoué.
Expliquez. Hein.
En fait, le cafouillage a commencé avec le ratage de l'agent Tippit. Si ce policier, comme c'était prévu, avait tout de suite liquidé Oswald, on ne se serait même pas posé la question. Castro aurait été immédiatement dans la ligne de mire des Américains. Je suis sûr que les représailles n'auraient pas tardé. Mais Oswald non seulement n'a pas été tué, mais il a été arrêté.
Oui, donc il risque de parler.
Oui, et de révéler que dans toute cette affaire, il n'a été qu'une chèvre. Ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un pigeon.
Ouais,
pour le faire taire, il faudra improviser son assassinat par Ruby, un homme lié à la mafia. Et c'est à partir de là que l'opinion américaine va commencer à douter.
Pourtant, si je me souviens bien, le successeur de Kennedy, Johnson, ne se privera pas d'accuser Castro d'avoir été l'instigateur de l'assassinat de Kennedy.
C'est vrai, mais peut-être qu'il avait de bonnes raisons pour cela. Dissimuler, par exemple, sa propre responsabilité dans l'affaire.
Ah, vous voulez dire que Johnson aurait pu lui aussi être mêlé à l'attentat contre Kennedy?
Pourquoi pas. Mais chaque chose en son temps. Et je vous promets que nous reparlerons de Johnson dans la suite de ce récit.
D'accord. Alors, on revient à Oswald, c'est ça?
Oui. Quand il est de retour du Mexique, il s'installe à Dallas. Et il est rapidement engagé par l'entreprise qui gère ce dépôt de livres scolaires. L'ami qui lui a trouvé cet emploi, un certain George de Morenschild, est un baron russe farouchement anticommuniste. Ce qui prouve une fois de plus que Lee Harvey Oswald jouait un rôle lorsqu'il se prétendait pro-castriste.
Est-ce que ce baron était lié lui aussi à la CIA?
Vraisemblablement. En 1977, ce Morenschild sera appelé à témoigner devant une commission parlementaire qui a rouvert le dossier Kennedy. Mais quelques heures avant d'être entendu, il se tirerait une balle dans la tête. A noter qu'il avait confié à plusieurs reprises à des membres de son entourage qu'il était persuadé de l'innocence d'Oswald.
Ah, vous pensez qu'il ne s'est pas suicidé mais qu'on l'a liquidé?
Bien sûr. Mais vous le savez certainement, c'est fou le nombre de personnes liées à cette affaire qui vont mystérieusement mourir.
Ce qui accrédite selon vous la thèse du complot?
Naturellement. Oswald travaille donc au dépôt de livres où il a été engagé assez peu de temps avant le voyage du président à Dallas. Quelques jours plus tôt, il a acheté par correspondance une carabine à lunettes sous un faux nom.
Pourtant, la vente d'armes par correspondance est légale aux États-Unis, je crois.
Oui, mais je suis à peu près certain qu'on lui a donné l'ordre d'agir ainsi.
Pour accréditer la thèse de la préméditation?
Je le pense, oui. Autre fait très curieux. Oswald se fait photographier en tenant cette arme à la main. Et bien sûr, les policiers, lorsqu'ils perquisitionneront, retrouveront cette photo.
Au fait, question importante, cette arme, c'est bien celle qui sera retrouvée au dépôt de livres?
Oui, mais là encore, il y a un mystère. Les policiers parleront d'abord d'une carabine Mauser 7,65. Mais plus tard, ils affirmeront qu'il s'agissait d'une arme italienne, une Mannlicher Carcano de calibre 6.5. Bizarre, non? Si bizarre même qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander s'il n'y avait pas deux armes au cinquième étage du dépôt et si on n'en a pas fait disparaître une.
Oui, ouais, donc deux armes de tireurs. Enfin, c'est quand même difficilement imaginable.
Ah oui, mais tout dans cette affaire est incroyable. Quand on songe au nombre d'examens ou de vérifications qui n'ont pas été opérés, ou encore, par exemple, aux preuves qui ont disparu, tenez, la voiture, cette Lincoln décapotable, elle a été expédiée à Washington, lavée et recarrossée.
Alors qu'elle aurait pu être utile aux experts en balistique.
Bien sûr. Autre chose. Un panneau routier sur lequel des témoins avaient cru voir un impact du tir a été démonté et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Je ne parle pas de toutes les photos qui ont été saisies par la police et qui ont purement et simplement disparu.
Et des photos prises par les spectateurs présents sur le bord de la rue.
Oui, des photos qui auraient pu être utiles à une enquête sérieuse et impartiale.
Il y a quand même eu ce fameux film amateur.
C'est vrai. Encore là, tout n'est pas clair. Vous connaissez l'histoire?
Oui, mais enfin, rappelez-moi.
Bon. Ce film, 8 mm, est tourné par un passant qui étreint ce jour-là sa caméra. Il comprend immédiatement qu'il détient un document historique et il vend à bon prix son film à un grand hebdomadaire. Life, je crois. Le journal publie quelques images extraites du film, et c'est tout. La fameuse commission Warren chargée de faire la lumière sur la mort de JFK le visionne, mais s'abstient de le rendre public.
Pour quelle raison?
Le film est embarrassant parce qu'il met à mal la version officielle telle qu'elle sera établie par la commission Warren.
C'est-à-dire la version Oswald, seul tireur.
Ayant atteint le président américain en tirant derrière. Ce n'est que des années plus tard que cet enregistrement capital sera diffusé. Mais je vais y revenir. Non, je crois vous avoir démontré qu'on a tout fait pour dissimuler la vérité.
Oui, mais qui? La police locale
Les policiers de Dallas ont certainement accumulé les négligences et les fautes. Ce n'est pas très étonnant quand on songe que cette police était corrompue et gangrénée par l'extrême droite. Mais il faut tenir compte du fait que de nombreuses personnes étaient impliquées, et souvent au plus haut niveau de l'État.
Ah ben, soyez plus précis, là.
Je pense notamment au FBI. Son patron, tout puissant, Edgar Hoover, a fait tout son possible pour contrôler l'enquête. Et lorsque Johnson se décide à créer la commission Warren, Hoover n'aura de cesse d'intervenir dans son travail d'enquête. C'est d'autant plus intéressant qu'Oswald était loin d'être un inconnu pour le FBI.
Ah bon, ça signifie?
Il était fiché depuis longtemps par le bureau fédéral pour qui il travaillait parfois comme indicateur. Et mieux, un agent du FBI était chargé à Dallas même de le surveiller ou d'assurer le contact avec le bureau.
Et Oswald le savait?
Parfaitement. On a même retrouvé dans son agenda mention du nom de cet agent, de son adresse et de son numéro de téléphone et même de la plaque d'immatriculation de sa voiture. Enfin, j'ai été trop long et je vous propose de reprendre cette conversation la semaine prochaine.
Rendez-vous est pris car le dossier Kennedy cache encore de nombreux mystères. Oswald, pour reprendre l'expression de Monsieur X, a-t-il été un pigeon, un personnage manipulé? J'ai trouvé une récente interview de la veuve de Lee Oswald. Marina Oswald affirme avoir rencontré son mari après son arrestation et pendant sa courte détention. Oswald semblait très confiant. Il était persuadé qu'il s'agissait d'une erreur et qu'on allait le relâcher. D'autre part, elle évoque la fameuse photo où l'on voit Oswald posé fièrement avec l'arme qui a tué Kennedy. Et elle remarque, non sans raison, s'il avait voulu tuer le président, se serait-il fait photographier ainsi? Maintenant, dit-elle, je comprends, c'est un marché qu'il avait conclu avec les services de renseignement et dont ils se sont servis pour prouver sa culpabilité. Là, ou plutôt les vérités sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Car aujourd'hui encore, il faut bien l'avouer, on ne sait toujours pas si Lee Harvey Oswald était réellement le tireur, le seul assassin. La semaine passée, M. X s'est attaché à mettre en lumière un certain nombre d'erreurs ou d'incohérences. A commencer par l'étrange personnalité d'Oswald, le pigeon, comme l'appelle M. X, manipulé par certains éléments de la CIA, mais affichant des convictions communistes et sa sympathie pour Fidel Castro. Un homme qui, selon mon interlocuteur, devait être abattu aussitôt après l'assassinat du président américain au cours d'une arrestation qui aurait tourné mal. Mais il y a eu cafouillage. Un cafouillage qui va aboutir à l'élimination d'Oswald dans les locaux même de la police de Dallas. Car lorsqu'on apprendra que son assassin est un homme de la mafia, on commencera à se poser des questions. Mais n'allons pas trop vite, comme dirait M. X, et reprenons là où il s'est arrêté. Si Oswald avait des accointances avec des agents de la CIA, il était aussi très bien connu de l'autre grand service américain, le FBI, pour lequel, à l'occasion, il était indicateur. Et à Dallas, il est même surveillé par un agent de ce bureau fédéral dont le patron est le tout-puissant et quasi inamovible Edgar Hoover. Un homme qui exige que l'enquête soit confiée à son service et qui, lorsque le nouveau président, Lyndon B. Johnson, se résoudra à créer une commission d'enquête, la fameuse commission Warren, en surveillera de très près les travaux, n'hésitant jamais à intervenir ou à influencer ses membres. Dans un instant, la suite du récit de M. X.
Personnellement, Edgar Hoover ne pouvait que se féliciter de la disparition de Kennedy. Le président américain voulait en effet que le chef du FBI quitte son poste lorsqu'il aurait atteint l'âge de la retraite, ce qui ne tarderait pas. Or, Hoover désirait s'accrocher.
Et il réussira.
Oui, car le nouveau président Johnson, désireux de se concilier un personnage aussi puissant, lui offrira aussitôt ce que Kennedy lui refusait.
Il mourra à son poste.
Au début des années 70, c'est exact.
Oui. Ça veut dire que Hoover, lui aussi, avait de bonnes raisons de désirer l'élimination de Kennedy.
Certainement. D'autant qu'il n'avait aucune sympathie pour ce clan arrogant et richissime, mais qu'il en connaissait les secrets. Les turpitudes sexuelles de JFK, la vérité sur son état de santé précaire, les relations aussi de la famille avec des personnages douteux et appartenant même au crime organisé. Or, en tant que chef du FBI, il était placé sous l'autorité directe du ministre de la Justice, c'est-à-dire Robert Kennedy. Et c'est peu dire que les deux hommes ne s'aimaient pas.
D'accord, mais est-ce que Hoover aurait pu aller jusqu'à participer à un complot contre Kennedy?
Pourquoi pas? Il pouvait au minimum se contenter de ne pas agir.
Qu'assumez-vous, là?
Edgar Hoover, qui était l'homme le mieux informé des États-Unis, savait que quelque chose se préparait contre Kennedy. Or, la loi lui imposait d'informer le Secret Service, chargé de la protection du président et de toute menace pesant contre lui.
Et il n'en a rien fait.
Exactement.
Par conséquent, vous pensez qu'Edgar Hoover pourrait être un complice indirect?
C'est ce que je crois, oui. Mais avant de voir ça de plus près, revenons à l'enquête elle-même.
Oui, c'est-à-dire l'enquête de la commission Warren.
Oui, d'abord. Cette commission est présidée par Earl Warren.
Ce qui est le président de la Cour suprême, je crois.
C'est ça, oui, oui. Il est assisté de parlementaires, dont un, Gerard Ford.
Le futur président des États-Unis?
Lui-même. Oui, Ford qui entretient d'excellentes relations avec Hoover. En fait, on estime que Ford était l'homme de Hoover au sein de la commission Warren. Il y avait aussi des juristes, des experts et l'ancien directeur de la CIA, Allen Dulles, limogé par Kennedy après le désastre de la baie des cochons.
Lui aussi, il ne veut pas porter Kennedy dans son cœur. Mais est-ce que cette commission était vraiment décidée à faire la lumière?
Warren était un homme honnête, et beaucoup d'autres membres de la commission l'étaient également. Mais ils travaillaient à partir des éléments qu'on leur fournissait. Or, je vous l'ai déjà dit, des preuves avaient disparu. Et la police de Dallas ne s'était guère montrée attachée à faire surgir la vérité. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Faut pas oublier qu'Oswald a été assassiné dans ses locaux par un mafieux notoire qui s'y promenait comme s'il était chez lui.
Ouais, ce Ruby, là.
Ouais. Alors, on peut avoir des doutes sur le travail de la police de Dallas et sur les éléments qu'elle a fournis à la commission Warren. Non, cette commission va essentiellement se servir des enquêtes du FBI et des preuves scientifiques qui sont à sa disposition. C'est-à-dire les observations balistiques, le résultat de l'autopsie et ce film amateur qui a été miraculeusement tourné au moment même de l'assassinat de Kennedy.
L'objectif étant de déterminer si Oswald a été le seul tireur.
Et s'il y a eu conspiration ou pas. Alors, l'autopsie d'abord. Ou plutôt les autopsies, car il y en a eu deux. La première a été pratiquée tout de suite, à l'hôpital de Dallas. Et la deuxième, à l'hôpital naval de Bethesda. Disons-le tout de suite, les conclusions de ces examens sont contradictoires, ce qui ne simplifiera pas les choses.
Bon, inutile d'entrer dans le détail, alors venez-en aux conclusions.
Je préfère, oui, parce que tout ça est un petit peu compliqué. Alors disons que pour les médecins de Dallas, Kennedy a été tué par une balle tirée de l'avant, et que pour ceux de Bethesda, la balle mortelle a été tirée de l'arrière. Même confusion au sujet du nombre de balles tirées, 4 pour les uns. 3 pour les autres. Bon, il faut dire à la décharge des médecins qu'une trachéotomie a été pratiquée sur le corps de Kennedy. Une opération qui a pu masquer les orifices d'entrée ou de sortie des balles.
Ouais, il n'empêche, ça fait quand même un peu bâclé.
Hein. Oui, certainement. Bâclé ou bizarre. Un fait en particulier m'intrigue. Le médecin chargé de rédiger le rapport final d'autopsie brûlera aussitôt ses notes dès qu'il aura terminé son travail.
Pourquoi ?
Ou bien il s'est rendu compte que dans son rapport, il a artificiellement tenté de concilier les deux thèses et que ça paraît invraisemblable, ou alors l'un de ses supérieurs de la navale lui a ordonné de détruire ses notes.
Et votre avis ?
Je ne sais pas. Mais je remarque simplement que dès le départ de l'enquête, c'est la thèse du tireur solitaire qu'on privilégie, autant au FBI qu'à la commission Warren, et même à la Maison-Blanche.
Donc rien ne doit venir perturber cette thèse.
C'est ce que je pense, oui. Or, cette histoire des 3 ou 4 balles est essentielle.
Expliquez.
L'arme d'Oswald est une carabine semi-automatique. C'est-à-dire qu'entre chaque tir, il faut expulser la douille, réarmer, épauler, viser à nouveau sur une cible mouvante qui plus est, même si la voiture présidentielle ne roule pas très vite.
Et ça prend combien de temps, ça prend?
Oh, pour un très bon tireur, il faut entre 2 ou 3 secondes. Or, en chronométrant la scène grâce au film 8 mm qui a été tourné par un spectateur, les spécialistes estiment que le tireur qui se trouvait dans le bâtiment du dépôt de livres scolaires n'a pu tirer que 3 balles au maximum.
Donc s'il y a eu une quatrième balle, ça signifie aussi qu'il y a un deuxième tireur.
Un homme qui se serait peut-être trouvé devant la voiture et non pas derrière, ou même à côté d'Oswald. Et ça change tout, n'est-ce pas? Alors, il faut absolument s'en tenir aux 3 balles. Et les experts en balistique, pour se conformer à la thèse de la commission Varenne, vont se livrer à de véritables contorsions scientifiques. Car il ne faut pas oublier que le gouverneur Connelly, qui se trouvait devant Kennedy, a lui aussi été atteint.
Ouais. Contorsion, c'est-à-dire manipulation de la vérité.
Oui, bien sûr. Et les balisticiens vont inventer ce qu'on a appelé depuis la balle magique.
La balle magique, ça, expliquez-moi.
Bah, cette balle tirée du 5e étage à 80 mètres de la voiture présidentielle pénètre sous l'encolure du président. Mais elle ressort plus haut, dans le cou de Kennedy, à hauteur de son nœud de cravate. Puis elle va frapper le dos du gouverneur Connelly, sort sous son mamelon droit, fracture son poignet droit, et finalement le blesse à la cuisse gauche. Curieusement, cette balle magique et erratique sera retrouvée quasiment intacte sur un brancard de l'hôpital de Dallas.
Marquez le miracle.
Elle est sans doute sortie naturellement de la cuisse de Connelly.
Oh, mais franchement, est-ce que c'est crédible, cette histoire de balle magique?
Non. D'autant que les agents du Secret Service qui ont vu le président tout de suite après l'attentat ont situé le trou d'entrée de la balle beaucoup plus bas sous l'encolure. Il était donc impossible qu'elle remonte ensuite pour sortir dans le cou.
Mais d'autant qu'elle a été tirée d'en haut. Hein.
Voilà. Conclusion possible, Kennedy et Connelly ont été atteints par 2 balles différentes.
Et pratiquement au même moment.
Ce qui accrédite donc la thèse des 2 tireurs.
Mais cette balle magique, est-elle celle qui a mortellement blessé le président?
Non. La balle mortelle est tirée quelques secondes plus tard, comme en témoigne le film d'amateur. Et elle lui emporte une partie du crâne. Puis il y aura encore une balle qui ratera sa cible.
Alors, justement, parlons de ce film qui, m'avez-vous dit lors de notre premier entretien, a longtemps été tenu sous le boisseau.
Mais qui a été visionné par les membres de la commission Warren.
Alors, que nous apprend ce film?
Si on analyse image par image, il commence par démolir cette théorie de la balle magique.
Pourquoi?
Parce qu'on voit Kennedy tressaillir sous le choc de la première balle. Et c'est seulement une demi-seconde plus tard que le gouverneur semble atteint à son tour.
Par un autre tireur, donc.
Oui, enfin, on dira plus tard que les images étaient d'une très mauvaise qualité. Et qu'une rénovation du film apporterait la preuve que les deux hommes ont bien été touchés au même moment. Bon, moi je veux bien, mais ça me paraît bizarre. Toutefois, je ne suis pas un spécialiste. Enfin, plus étonnantes encore sont les images de Kennedy lorsqu'il est frappé par la balle mortelle. Sa tête bascule vers l'arrière.
Ah, vers l'arrière, alors, comme s'il avait été touché par une balle tirée de l'avant.
Exactement. Mais il se trouvera des scientifiques pour affirmer que ce mouvement a été provoqué par l'éjection de la matière cérébrale vers l'avant.
Ouais, un effet de réaction.
Oui, c'est ça. Enfin, encore une fois, je ne suis pas expert. Toutefois, ça me paraît quand même troublant. Alors, restons-en là. N'importe comment, je suis sûr que les membres de la commission Warren avaient déjà fait leur choix.
Oui, la thèse du tueur unique, Lee Harvey Oswald.
Et 10 mois après l'assassinat de Kennedy, ils publient leurs conclusions. Oswald, ancien marine, converti au marxisme, ayant vécu en URSS, proche des milieux castristes, était un homme instable qui a agi seul. Quant à son meurtrier, Ruby, il aurait agi par patriotisme pour venger Jackie Kennedy.
Un mafieux qui agit par patriotisme.
Ouais, c'est assez difficilement croyable et ça prouve bien qu'on veut cacher la vérité.
Ah ! Quelles ont été les réactions après la publication du rapport de la commission Warren? Voici ce que je lis dans le livre d'André Caspi, Kennedy, les 1000 jours d'un président, publié chez Armand Collin en 1993. Partout dans le monde, le rapport a été lu avec attention et longuement commenté. En général, l'accueil est très favorable. Les journaux américains célèbrent les mérites, les efforts, l'honnêteté des commissaires. Ils admirent la solidité de leur travail et s'estiment satisfaits des conclusions qu'on leur propose. Dans le reste du monde, le rapport est aussi analysé et sous-pesé. Là encore, c'est plutôt un sentiment de soulagement qui prévaut. En Grande-Bretagne, en Allemagne et dans les pays scandinaves, les journaux n'expriment guère de réserve. Ailleurs, on se pose encore des questions, même si l'on charge l'histoire d'apporter la lumière définitive. C'est surtout en France, à un moindre degré en Belgique et en Autriche, que le scepticisme l'emporte. Le rapport convaincra sans doute la grande masse des Américains, observe Paris Presse, mais les Français diront « Nous ne croyons pas à tout cela parce que c'est incroyable ». Le Figaro relève les lacunes, les contradictions et les déclarations difficiles à croire dans le rapport Warren. Le Monde soutient qu'une importante fraction de l'opinion publique du Vieux Monde reste sceptique. Les réactions de l'opinion mondiale inquiètent le gouvernement des États-Unis. Il serait regrettable, estime-t-on à Washington, qu'une commission aussi prestigieuse ne soit pas prise au sérieux et que l'image internationale du pays soit ternie par le doute. Toutefois, les arguments de la commission n'ont pas convaincu deux des acteurs du drame de Dallas. Le gouverneur Connally a toujours affirmé qu'il avait été blessé par une autre balle que celle qui avait traversé le cou de Kennedy. Quant au président Johnson, il n'a jamais cessé de croire que Castro avait tenu un rôle dans la préparation de l'assassinat.
Dans un premier temps, il faut le reconnaître, les Américains, qui sont encore sous le choc de l'assassinat d'un président si populaire, ils acceptent sans broncher les conclusions de la commission Warren. D'autant que Bobby, le frère de JFK, semble lui aussi accepter cette thèse.
Alors même qu'il est encore ministre de la Justice.
Hein. Attorney général, oui. Mm-hmm.
Vous avez une explication là, de l'attitude de Bobby
hein? Oui, Robert Kennedy est bien placé pour savoir que beaucoup de gens avaient intérêt à éliminer son frère. Et il n'a peut-être pas envie qu'on creuse de trop.
Et qu'on déterre des choses gênantes pour la réputation de son frère.
Et pour l'image du clan tout entier. N'oubliez pas qu'il est appelé à prendre la suite de son frère. Et en 1968, c'est en pleine campagne électorale qu'il se fera lui aussi assassiner. Mais il semble me souvenir que nous en avons déjà parlé.
Mm-hmm, c'est exact. Oui.
Et après Bob, il y avait encore William, qui aurait pu faire un excellent candidat s'il ne s'était conduit de façon stupide au cours de l'enquête sur un dramatique fait divers.
Oui, la noyade d'une jeune femme de son entourage. Hein.
C'est ça. Mm. Les fils Kennedy ont tous été dressés par leur père, le vieux Joe, pour être président. Mm-hmm.
Donc pour résumer là, Bob Kennedy, qui connaissait les secrets de son frère, hein, était bien placé pour ça, n'a guère envie que l'enquête aille trop loin.
Oui, ça j'en suis persuadé, d'autant qu'il avait été mêlé lui-même à quelques-uns des épisodes les plus scabreux de la vie de son frère. On va poursuivre. Après cette période de deuil, l'opinion américaine commence à s'interroger. Il y a d'abord tous ces témoins qui disparaissent les uns après les autres. L'un de vos confrères a fait le calcul, moins de 3 ans après l'assassinat du président, 18 personnes qui avaient témoigné sont mortes.
Comment ?
Des morts violentes pour au moins 13 d'entre elles. Suicides, accidents, exécutions, ça fait quand même beaucoup, non ? Ces gens-là étaient des proches de Ruby ou avaient été interrogés à propos du meurtre de l'agent Tippit. Et puis, on finit par se rendre compte que la commission Warren a travaillé dans la précipitation et a négligé beaucoup d'aspects. Enfin, il y a cette histoire de la balle magique qui passe mal.
Ah, on n'y croit pas.
Oui, tous les gens sérieux pensent que la thèse de la commission Warren est ridicule et qu'on a inventé ce trajet de la balle magique uniquement pour résoudre les incohérences des constatations balistiques et ficeler au plus tôt le dossier. Mmh. En outre, on s'interroge aussi sur le fait que la commission Warren n'a pas retenu les témoignages des personnes qui ont affirmé avoir vu de la fumée s'élever au-dessus du talus gazonné de la place lors de l'assassinat de Kennedy.
Là où aurait pu se trouver un deuxième tireur.
Oui, leurs dépositions n'ont pas été retenues. Alors, tout ça commence à agiter l'opinion. Et en 1967, le procureur de la Nouvelle-Orléans, un certain Jim Garrison, décide de son propre chef de reprendre l'enquête. Et il commence par fouiller le passé d'Oswald. Très vite, il s'interroge sur les liens du tueur désigné avec la CIA en particulier et les services secrets en général.
C'est-à-dire qu'il établit la réalité de ses relations.
Oui, et très vite, il découvre qu'Oswald, qui ne manque jamais une occasion de proclamer qu'il est pro-castriste, fréquente des agents de la CIA qui ont monté des opérations contre Cuba. Curieux, non ? Garrison trouve même que l'adresse qui figure sur les tracts pro-castristes que distribue Oswald est aussi celle d'un détective privé d'extrême droite, un ancien du FBI et des services spéciaux de la marine, Guy Bannister. Et peu à peu, le procureur dévide la plotte.
Mm-hmm. Et où arrive-t-il ?
Un nommé Clay Shaw.
Qui est celui-là ?
Un homme d'affaires lié à la CIA et très influent dans les milieux anticastristes. Pour Garrison, c'est clair. Clay Shaw est l'inspirateur du complot, c'est lui qui a manipulé Oswald.
Ouais, Oswald le pigeon, toujours.
Oui, la manœuvre étant de faire porter le chapeau à Castro, comme je vous l'ai dit précédemment.
Mmh. À part cette histoire d'adresse, là, qui est effectivement étrange, est-ce que Garrison découvre des preuves ?
Difficilement. L'épidémie de mort mystérieuse frappe toujours. Le détective Bannister, par exemple, dont on apprendra plus tard qu'il travaillait toujours pour la FBI, est retrouvé mort dans son appartement. Apparemment, il a été victime d'une crise cardiaque. Mais curieusement, il y avait un fusil à côté de son corps.
Ce qui signifie
qu'il se sentait peut-être menacé, mais il n'a pas eu le temps de se défendre. Autre mort étrange, celle de David Ferry, une vieille connaissance d'Oswald, un pilote qui avait participé à des actions contre Castro à l'instigation de la CIA. Garrison s'apprête à l'interroger. Il ne pourra jamais le faire. Ferry se suicide.
Mmh. Un vrai suicide ?
Là, j'en doute fortement. Mmh.
Mais vous ne cessez là, de me parler de la CIA, mais l'agence en tant que telle est-elle mise en cause par ce procureur-là ?
Indirectement, oui.
Mais pourquoi ? pourquoi, expliquez-moi, pourquoi la CIA ou certains éléments de la CIA seraient-ils impliqués dans le complot contre Kennedy?
Il y a un vieux contentieux entre l'agence et JFK.
Oui, le désastre de la baie des cochons.
En particulier, je vous rappelle rapidement. Lorsque John Kennedy arrive à la Maison Blanche au début de l'année 1961, il trouve sur son bureau un projet de débarquement armé à Cuba. La CIA a entraîné des exilés cubains, leur a fourni des avions, enfin bref, tout est prêt.
Oui, le plan a été établi par le prédécesseur de Kennedy. Hein?
Eisenhower, oui. Et par son vice-président, Richard Nixon. Mmh.
Mais l'opération ne peut s'effectuer sans un feu vert présidentiel.
C'est évident. Mmh. Kennedy n'est pas très enthousiaste, mais il est coincé. Pendant la campagne présidentielle, il a pris des positions très dures contre Fidel Castro.
Ah ouais, il est difficile de reculer.
Oui, mais il va modifier le plan prévu. D'abord, il demande que soit changé le lieu du débarquement. Et ça aura des conséquences catastrophiques, parce que le nouvel endroit est particulièrement inhospitalier. Ensuite, il exige que les États-Unis ne puissent à aucun moment paraître impliqués dans cette affaire.
Ça me paraît logique.
Certes, mais en interdisant tout appui opérationnel de la marine et de l'aviation américaine, il précipitera l'échec du débarquement. La suite, vous la connaissez, c'est une véritable catastrophe. Les anticastristes débarqués dans la baie des cochons sont massacrés ou faits prisonniers. Et le président, qui n'est aux affaires que depuis 4 mois, se défausse sur la CIA.
Et sur l'agence qu'il fait reposer la responsabilité du désastre.
Et son patron, Alan Dulles, est limogé. La conséquence, c'est que beaucoup d'agents et de cadres de la CIA se sentent trahis. Et ne pardonneront jamais à JFK parce qu'ils pensent que le premier responsable de la catastrophe, c'est lui.
Ouais, mais de là, l'assassiner.
Sans doute, mais il n'y a pas que ça. La CIA a d'autres raisons d'en vouloir à Kennedy. D'abord, il se murmure à Washington que si le président l'emporte en 1964, il procédera à un profond remaniement des services secrets. Ensuite, il y a la politique américaine au Vietnam.
Précisez, là.
Kennedy, comme vous le savez, est le président qui va vraiment engager son pays là-bas en envoyant toujours plus de conseillers militaires et de forces spéciales. Et chaudé par l'échec de la baie des cochons, il donne la prééminence au Pentagone.
C'est le ministère de la Défense.
Oui, au détriment de la CIA. Et ça, une nouvelle fois, ça passe très mal. Enfin, il y a une dernière raison. Les hommes de la CIA ont découvert que la Maison-Blanche entendait amorcer une politique de détente vis-à-vis de Cuba. Une rencontre secrète avec Castro a déjà été envisagée. Et des émissaires se sont déjà rencontrés. Parmi eux, on trouve le journaliste Jean Daniel.
L'actuel directeur du Nouvel Obs.
Oui, et Kennedy l'a chargé d'annoncer à Castro qu'il désirait entamer une normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis. D'ailleurs, Jean Daniel se trouvera aux côtés du leader Massimo lorsque celui-ci apprendra l'assassinat de Kennedy.
Sa réaction ?
Castro a pris ça comme une très mauvaise nouvelle.
Ouais, il aurait pu feindre. Hein.
Bon, tout est possible, mais je ne crois pas. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, les gens de la CIA avaient de bonnes raisons pour souhaiter la disparition de Kennedy.
Mais... La question vietnamienne a-t-elle joué un rôle dans l'assassinat de John Kennedy? Dans le dossier consacré par Historia à la mort du président américain, le spécialiste du renseignement Rémi Goffer écrit ceci. 2 mois après l'échec cubain, Kennedy tranche. Coup dur pour la CIA, le président réduit son domaine à la portion congrue en octroyant aux militaires la responsabilité majeure des opérations de guerre non conventionnelles. Et qui choisit-il pour assumer la tâche? Son vieil ami Krulak, assistant spécial pour la contre-insurrection et les opérations spéciales auprès du comité des chefs d'état-major. Krulak, qui va faire tant et si bien qu'à la fin 1961, les effectifs des forces spéciales auront doublé. Remâchant sa disgrâce, la CIA continue à soutenir activement le président Diem et son frère Ngo Dinh Nu, patron de la police secrète. Mais la répression féroce de toute opposition, surtout celle des moines bouddhistes à l'été 1963, discrédite le pouvoir saïgonais aux yeux de l'opinion américaine. Fin octobre 1963, l'ordre tombe, abandonné Diem. Un blanc-seing pour les généraux vietnamiens. Le 2 novembre, 20 jours avant l'attentat de Dallas, Diem et Nu sont assassinés par les officiers putschistes. JFK se montrera très affecté par cette mort brutale qu'il n'avait pas souhaité en fait. C'est le bilan de son action au Vietnam qui l'accable. En humiliant ses services de renseignement pour la seconde fois après l'affaire de la baie des cochons, le président a creusé le fossé entre l'agence et la Maison Blanche, d'où les rumeurs, jamais vérifiées, et les nombreux films ou livres impliquant cette dernière dans sa fin tragique.
Alors quels sont les autres personnes ou organisations qui ont pu être désireuses de se débarrasser de Kennedy?
Je crois vous l'avoir dit la semaine passée, l'extrême droite critiquait ses intentions en manière de droit civique.
Mais pour les Noirs, ouais.
Oui, et les fanatiques du Ku Klux Klan représentaient encore une force notable dans le sud des États-Unis, et en particulier au Texas, un état très conservateur. Puis il y avait aussi les puissants milieux pétroliers qui avaient peur que Kennedy ne taxe leurs revenus. Un homme était très proche de ce lobby, le vice-président Johnson.
Un Texan, hein, c'est ça.
Oui. Et vous le savez sans doute, un livre récent a accusé Lyndon Baines Johnson d'avoir commandité l'assassinat de Kennedy.
Oui, je me souviens, on a retrouvé au cinquième étage du fameux dépôt de livres scolaires, là, une empreinte digitale d'un type qui travaillait pour lui, hein, un homme de main.
Oui, j'ai entendu parler de ça. Oui.
Ouais, et qu'en pensez-vous?
Bon, ça ne m'étonne pas autre mesure.
Bah, vous pensez donc que la piste de Johnson est sérieuse?
Je n'ai pas dit cela, mais laissez-moi poursuivre.
Ouais. En tout cas, ça fait beaucoup de monde qui en voulait à JFK. Hein.
Oui, Kennedy ne manquait pas d'ennemis. Enfin, c'est là où je veux en venir, il y avait aussi la mafia. Le crime organisé, si vous voulez. Les chefs des principales familles de truands avaient eux aussi d'excellentes raisons de vouloir liquider Kennedy.
Oui, je crois savoir, mais ça mérite quand même une explication. Hein.
Oui, JFK, c'est un secret de Polichinelle, a été élu grâce à un sérieux coup de pouce de la mafia. C'est Joe, son père, qui avait de longue date des relations très étroites avec le crime organisé.
Ah ouais, les trafics d'alcool pendant la période de la Prohibition.
C'est entre autres l'origine de la fortune des Kennedy. Donc Joe a pris contact avec un certain Giancana qui régnait sur Chicago.
Un parrain.
Oui, un parrain très influent. Et Joe a demandé à ce Giancana de faire voter pour son fils. Il n'est pas non plus impossible que certaines urnes aient été bourrées. Et vous ne l'ignorez pas, John Kennedy a été élu président. Mais à une très courte majorité, il s'en est fallu de 100 000 voix, ce qui, à l'échelle des États-Unis, est très peu de choses. Par conséquent, non sans raison, les gangsters ont estimé que Kennedy leur devait son élection.
Ah, ils voulaient être remerciés.
Naturellement. Or, bien au contraire, le clan Kennedy va les contrarier. Non seulement on ne leur laisse pas faire leurs affaires, comme ils l'entendent, mais le frère cadet, Bob...
Il est tourné général.
Oui, c'est ça. Bob entend nettoyer les écuries d'Ogias. Et il commence à attaquer de front toutes les activités illicites, et fait emprisonner nombre de truands ou les contraint à l'exil.
Un manque de reconnaissance, là.
C'est ce que pensent les familles. Mais ce n'est pas tout. Quelques grands parrains de la mafia ont beaucoup perdu avec l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro à Cuba.
Ouais, les casinos, les prostituées, la drogue...
Oui, sous Batista, la mafia faisait la pluie et le beau temps dans l'île, et elle y gagnait beaucoup d'argent. Et les gangsters attendaient de Kennedy qu'il leur permette de recouvrer leur fief en chassant Castro. Première désillusion, le désastre de la baie des cochons. Deuxième désillusion, les Kennedy ne semblent pas vraiment désireux de se débarrasser de Castro par la force.
Ah, il y aura pourtant ces tentatives d'assassinat du dirigeant cubain. Hein.
C'est juste, oui, des tentatives perpétrées avec l'accord de Bob Kennedy, mais elles échoueront toutes. Pourtant, en pilotant ces opérations manquées, le frère cadet de JFK sans doute scellait le destin de son frère.
Pourquoi?
Parce que pour tenter d'assassiner Fidel, la CIA a fait appel à des gens qui connaissaient bien Cuba et qui avaient gardé des contacts.
Ah, les hommes de la mafia.
Bien sûr, d'autant qu'il y allait de leur intérêt. Des liens se sont donc noués entre les gangsters et les agents de la CIA. Des liens qui se révéleront fatals pour John Kennedy.
Alors, vous pensez que la mafia est impliquée également?
C'est certain. Rappelez-vous l'assassin de Lee Harvey Oswald, Jack Ruby. C'était un homme de la mafia, très lié aux parrains des principales familles, les Giancane, Traficante, Marcello ou encore Hoffa, le patron du syndicat des chauffeurs routiers. Oswald lui-même n'était pas un étranger pour la mafia puisque son oncle en faisait partie.
Ah bon, son oncle. Mais selon votre thèse, là, il a été sacrifié par les conspirateurs. Hein.
Et alors, Oswald n'était qu'un pion. Que valait sa vie à côté de l'objectif poursuivi? Pour les gangsters, Oswald n'était qu'un jobard, c'était la vérité.
Ouais, donc sa vie n'avait aucune importance.
Évidemment. Et il ne sera pas le seul à être sacrifié pour reprendre notre expression. Un à un, tous les gens qui savaient ou qui détenaient des informations sur le complot seront liquidés. L'un des derniers sera Giancana lui-même. Convoqué par une commission sénatoriale, le successeur d'Al Capone sera assassiné en 1975.
Avant éventuellement de parler.
Oui.
Vous avez parlé de commission sénatoriale. Ça veut dire que l'enquête s'est poursuivie.
Ah oui, avec des hauts et des bas. Garrison, lui, échoue. Il n'apporte pas les preuves qu'on attend et lors du procès qu'il intente à Clay Shaw, il est débouté. Mais l'affaire rebondit au milieu des années 70 lorsqu'on apprend toutes les malversations commises par la CIA.
Et toutes ces actions illégales.
Et en particulier ces tentatives d'assassinat de dirigeants étrangers. Et ces révélations semblent tellement choquantes qu'on se demande si la CIA n'a pas également joué un rôle dans l'assassinat de Kennedy. Puis une commission sénatoriale découvre que le FBI détenait un dossier sur Oswald, dossier détruit sur ordre.
Troublant, ça.
Oui. Un an plus tard, ce sont les membres de la Chambre des représentants qui se saisissent du dossier. La commission ne découvre pas la vérité, mais elle affirme explicitement la possibilité d'une conspiration.
La possibilité seulement.
Et 10 ans plus tard, une nouvelle commission, composée des plus hautes autorités médicales et policières américaines, et mandatée par la Maison Blanche, révèle que les rapports d'autopsie ont été volontairement maquillés. Et enfin, en 2001, un magazine scientifique américain, relayé par le Washington Post, révèle l'existence d'un deuxième homme près d'Oswald.
Ce proche de Lyndon Johnson, là, dont on a retrouvé une empreinte digitale?
Très certainement. Et ça confirme les déclarations du gouverneur Connally, qui a toujours affirmé avoir été touché par une autre balle que celle qui a frappé le président. On en est là pour l'instant.
Alors, votre avis, à vous ?
Ben, je pense que Kennedy a été victime d'une conspiration ourdie par une nébuleuse dont les intérêts étaient communs. Les frustrés de la mafia, les mécontents de la CIA et des milieux pétroliers, et surtout les anticastristes très proches des gangsters. Ces gens-là, croyez-moi, avaient à leur disposition tous les hommes de main possibles pour exécuter l'assassinat. Mais, je vais peut-être vous surprendre, je pense que le véritable assassin du président Kennedy, c'est le patron du FBI, Edgar Hoover.
Pourquoi ?
Parce qu'il était au courant de tout. Il connaissait par le détail la préparation du complot auquel étaient associés certains de ses agents ou correspondants, mais il n'a pas bougé.
Oui, vous voulez dire qu'il n'a rien fait pour prévenir l'attentat ?
Eh bien, au contraire. C'est pour ça que je crois à sa culpabilité. Car ça l'arrangeait bien. Non seulement il détestait les Kennedy, comme je vous l'ai dit, mais leur insistance à désirer le voir lutter contre le crime organisé commençait à le lasser. Et d'ailleurs, après la mort de Kennedy, il baissera les pouces et les truands pourront à nouveau vaquer à leurs affaires en toute tranquillité.
C'est quand même une accusation excessivement grave.
Mais confirmée par les faits. Hoover n'a en tout cas pas caché sa satisfaction à la nouvelle de la mort de Kennedy. Vous savez ce qu'il a fait le lendemain, lui, le premier flic des États-Unis ? Eh bien, il est allé passer sa journée sur un champ de course.
Hoover savait-il qu'il existait un plan pour assassiner Kennedy ? Son biographe, Anthony Sommer, auteur d'un livre au titre provocateur, Le plus grand salaud d'Amérique, paru au Seuil, l'affirme, je le cite. Une information sérieuse concernant Trafficante et Marcello suggère la possibilité que le FBI se soit rendu gravement coupable de négligence avant l'assassinat. D'après José Alman, un riche exilé cubain, Trafficante, aurait fait d'inquiétantes remarques sur le président au cours d'une réunion d'affaires en septembre 62. Les Kennedy, aurait dit le gangster, ne sont pas honnêtes. Ils prennent le fric et ne respectent pas le marché. Croyez-moi, ce Kennedy est dans le pétrin et il aura ce qu'il mérite. Lorsque Alman objecta que le président serait réélu, Trafficante aurait déclaré calmement « Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit ». Kennedy n'ira pas jusqu'à l'élection, il se fera descendre.